Le livre de Daniel, numéro 11. Épreuve prophétique dans les ténèbres et l'essor de l'image.
Le premier chapitre de Daniel représente le message du premier ange, et le deuxième chapitre représente le message du deuxième ange. Dans le symbolisme prophétique, le premier message est de craindre Dieu, le deuxième est de rendre gloire à Dieu, et le troisième identifie l'heure du jugement. Avant d'entrer directement dans le deuxième chapitre de Daniel, un petit rappel s'impose. Le message du deuxième ange identifie principalement la chute de Babylone.
Et un autre ange suivit en disant « Babylone est tombée, cette grande cité, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Apocalypse 14:8.
Le deuxième ange définit la chute de Babylone comme le fait qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa fornication. Sa chute est la conséquence de sa fornication avec toutes les nations. Cette fornication est provoquée par ces fausses doctrines, qui sont représentées comme du vin. L'Église catholique est composée de nombreux faux enseignements, mais la fausse doctrine directement associée à sa chute est celle qui produit sa fureur. Cette doctrine est la combinaison de l'Église et de l'État, l'Église contrôlant la relation. La fureur de l'Église catholique, c'est sa persécution de ceux qu'elle identifie comme hérétiques. Sa fureur s'accomplit par sa fornication avec les rois de la terre. Sans son lien avec et son contrôle sur les rois de la terre, elle n'aurait pas la capacité de persécuter ceux qu'elle définit comme hérétiques. Sa seconde chute marque donc le moment, dans l'avenir, où elle pourra de nouveau exercer sa fureur comme elle l'a fait par le passé, ce qui est provoqué par sa fornication avec les rois de la terre. Les rois de la terre entrent dans cette relation illicite en buvant ses mensonges. La chute de Babylone est annoncée pour la dernière fois dans l'Apocalypse, chapitre 18.
Et d'après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte et puissante, disant « Babylone la grande est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit impur et la cage de tout oiseau impur et odieux. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. » Et les marchands de la terre se sont enrichis par la profusion de son luxe. Et j'entendis une autre voix venant du ciel, disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a fait, et selon ses œuvres, rendez-lui le double. Dans la coupe qu'elle a remplie, versez-lui le double. » Apocalypse 18:1 de Cyclène.
La coupe d'approbation de l'Église catholique a pris fin en 1798, mais doit répéter la persécution qu'elle a menée au Moyen Âge, lors de la crise imminente de la loi du dimanche.
Toutefois, j'ai contre toi quelques griefs, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps de se repentir de son impudicité, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai sur un lit. Et je jetterai dans une grande tribulation ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Apocrypha 2:21-22.
Il lui a été donné 1260 ans pour se repentir, et elle a refusé. Les 3 ans et demi de sécheresse qui ont conduit au mont Carmel ont été donnés à Jézabel pour qu'elle se repente, mais elle a aussi refusé. Lors de l'imminente loi du dimanche aux États-Unis, le premier des rois de la terre qui se prostitue avec elle dans les derniers jours, c'est les États-Unis. La bête de la terre d'Apocalypse 13. Les États-Unis ont alors comblé la mesure de leur temps de probation.
La plus grande et la plus favorisée des nations sur la terre, ce sont les États-Unis. Une providence bienveillante a protégé cette nation et a répandu sur elle les plus précieux bienfaits du ciel. Ici, les persécutés et les opprimés ont trouvé refuge. Ici, la foi chrétienne dans sa pureté a été enseignée. Ce peuple a reçu une grande lumière et des miséricordes sans pareil. Mais ces dons ont été payés de retour par l'ingratitude et l'oubli de Dieu. L'être infini tient un registre l'égard des nations, et leur culpabilité est proportionnée à la lumière qu'elles rejettent. Un terrible dossier se trouve désormais inscrit au registre du ciel contre notre pays. Mais le crime qui comblera la mesure de son iniquité, c'est de rendre la loi de Dieu sans effet.
Entre les lois des hommes et les préceptes de Jéhovah surviendra le dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et l'erreur. C'est à cette bataille que nous entrons maintenant. Une bataille non entre des églises rivales se disputant la suprématie, mais entre la religion de la Bible et la religion de la fable et de la tradition. les forces qui s'uniront contre la vérité et la justice dans ce combat sont dès maintenant activement à l'œuvre. Esprit de prophétie, volume 4, 398.
Lors de la loi du dimanche, la marque de la bête est imposée, annulant la loi de Dieu. Avant la loi du dimanche, l'image de la bête se forme au sein des États-Unis. La loi du dimanche arrive à un moment précis, mais la formation de l'image de la bête se déroule sur une période. Cette période de temps est la période prophétique représentée par la durée de vie de Daniel, comme le symbolisent les 70 ans de captivité au chapitre 1 de Daniel. Ces 70 ans ont commencé avec Jéhoiakim, symbolisant le moment où le premier message a été investi de puissance le 11 septembre 2001, et se sont achevés par l'annulation de la loi de Dieu, comme le représente le décret de Cyrus. L'histoire de la vie prophétique de Daniel, longue de 70 ans, est symbolique de plusieurs lignes de prophétie. Elle représente le temps du scellement des 144 000. Elle représente un processus de mise à l'épreuve en trois étapes, illustré par les trois anges d'Apocalypse 14 et la structure du mot hébreu « vérité ». Elle représente la purification des fils de Lévi accomplie par le messager de l'Alliance. Elle est représentée par le fait que Christ purifie le temple à deux reprises. Elle est représentée par l'apostasie progressive au sein de Jérusalem dans les chapitres 8 et 9 d'Ézéchiel. Elle représente également l'histoire dans laquelle l'image de la bête est formée aux États-Unis.
Et l'image de la bête est aussi tuée classée représentée par la fornication de Jézabel avec Achab, la fornication d'Hérode avec Hérodiade, le veau d'or de la rébellion d'Aaron, les deux temples de culte contrefaits de Jéroboam situés à Bethel et à Dan, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté dans le récit du Mont Carmel. La seule définition de l'image de la bête dans les écrits d'Ellen White est la combinaison de l'Église et de l'État, l'Église contrôlant la relation. Cette question d'une Église régnant le sur l'État est l'essence de ce contre quoi le document sacré qu'est la Constitution des États-Unis a été conçu pour s'en prémunir. Lorsque le principe de la séparation de l'Église et de l'État sera abandonné par la bête de la terre lors de la prochaine loi du dimanche, l'union achevée de l'Église et de l'État aux États-Unis sera réalisée.
Du 11 septembre 2001 jusqu'à l'instauration de la loi du dimanche aux États-Unis, il existe un test visuel qui repose sur la reconnaissance, par les étudiants de la prophétie, de la formation de l'image de la bête. Nous sommes maintenant à la toute fin de ce processus. Dans le processus de formation de l'image de la bête, plusieurs mouvements contribuent à son plein développement au moment de la loi du dimanche, où la marque de la bête est imposée. Il y a des mouvements politiques, religieux, sociaux et financiers. Remarquez les événements qui sont mentionnés en lien avec la formation de l'image de la bête dans le passage suivant.
Déjà, les préparatifs avancent et des mouvements sont en cours, ce qui aboutira à la formation d'une image de la bête. Des événements seront suscités dans l'histoire de la Terre qui accompliront les prédictions de la prophétie pour ces derniers jours. Commentaire biblique adventiste du 7e jour, volume 7, page 976.
La formation de l'image de la bête implique une préparation progressive qui comprend des événements et des mouvements, tous deux au pluriel. L'histoire représentée par les 70 ans de captivité de Daniel a commencé avec Jojakim et s'est achevée avec le décret de Cyrus. Jésus illustre la fin d'une chose par le commencement d'une chose et il existe un décret qui représente le début de la période que symbolisent les 70 années prophétiques de Daniel. Ce décret fut le Patriot Act des États-Unis qui fut publiquement justifié par l'attaque de l'islam du troisième malheur. Mais, à la différence des ordres exécutifs dictatoriaux d'Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession ou de Franklin Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, le Patriot Act est toujours en vigueur et sera très probablement renforcé et durci à mesure que s'intensifient les hostilités avec l'islam mondial. Les ordres exécutifs tant de la guerre de sécession que de la Seconde Guerre mondiale ont pris fin avec la fin des hostilités. Mais il n'y aura pas de fin des hostilités avec l'islam mondial. Au contraire, on assistera à une escalade des attentats terroristes à travers le monde. Il existe deux principales philosophies juridiques au sein de la culture occidentale, le droit anglais et le droit romain. Le principe du droit anglais est qu'une personne est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Et le principe du droit romain est qu'une personne est coupable jusqu'à preuve de son innocence. Le USA Patriot Act est un exemple classique de droit romain et s'oppose directement au droit anglais. C'est l'un de ces « événements » qui seraient engendrés par la formation de l'image de la bête. Si les États-Unis devaient devenir l'image du catholicisme, il faudrait que la philosophie religieuse et politique catholique soit établie aux États-Unis avant l'imposition de la marque de la bête.
Ce sujet s'impose à mon esprit. Considérez-le, car c'est une question d'une importance capitale. À laquelle de ces deux classes associerons-nous notre intérêt ? Nous faisons maintenant notre choix
et nous discernerons bientôt entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lisez le 4e chapitre de Malachie et réfléchissez-y sérieusement. Le jour de Dieu est à nos portes. Le monde a converti l'Église. Les deux sont en harmonie et agissent selon une politique à courte vue. Les protestants influeront sur les dirigeants du pays pour faire des lois afin de rétablir l'ascendant perdu de l'homme du péché qui siège dans le temple de Dieu, se donnant pour Dieu. Les principes romano-catholiques seront placés sous la garde et la protection de l'État. Cette apostasie nationale sera rapidement suivie d'une ruine nationale. La protestation de la vérité biblique ne sera plus tolérée par ceux qui n'ont pas fait de la loi de Dieu leur règle de vie. Alors se fera entendre la voix venant des tombeaux des martyrs, représentée par les âmes que Jean vit immolées pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ qu'elle rendait. Alors montra la prière de chaque véritable enfant de Dieu. « Il est temps, Seigneur, que tu agisses, car ils ont rendu ta loi sans effet. » Bulletin quotidien de la Conférence générale, 1er janvier 1900.
Le passage précédent indique que le moment où les principes catholiques romains seront placés sous la garde et la protection de l'État coïncide avec la loi du dimanche. La loi du dimanche est la fin de la période symbolique qui a commencé le 11 septembre 2001. Le Patriot Act, au début, préfigure la loi du dimanche à la fin. Deux des événements provoqués afin de former l'image de la bête ont été l'arrivée du troisième malheur et le Patriot Act qui a suivi. La formation de l'image de la bête est l'épreuve où notre destinée éternelle sera décidée, et elle survient avant la loi du dimanche. Au moment de la loi du dimanche, notre temps de probation en tant qu'adventiste du septième jour se clôt, et c'est là que le sceau visible est apposé et que l'étendard est levé. La formation de l'image de la bête a lieu avant la loi du dimanche, avant le scellement visible et avant la fin du temps de probation.
Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête sera formée avant la clôture du temps de grâce, car elle doit constituer la grande épreuve pour le peuple de Dieu par laquelle leur destinée éternelle sera déterminée. Votre position est un tel enchevêtrement d'incohérence que bien peu seront trompés. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, ce sujet est clairement exposé. Apocalypse 13:11-17, cité. Voici l'épreuve que le peuple de Dieu doit passer avant d'être scellé. Tous ceux qui auront prouvé leur loyauté envers Dieu en observant sa loi et en refusant d'accepter un faux sabbat se rangeront sous la bannière du Seigneur Dieu Jéhovah et recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui renoncent à la vérité d'origine céleste et acceptent le sabbat du dimanche recevront la marque de la bête. Manuscript Releases, volume 15-15.
La période de formation de l'image de la bête a été représentée par les 70 ans de captivité de Daniel. Daniel a d'abord réussi l'épreuve de la crainte de Dieu en choisissant de ne manger que la nourriture de Dieu. La première épreuve de Daniel était une épreuve alimentaire. La deuxième épreuve de Daniel était une épreuve visuelle qui eut lieu à la fin d'une période d'épreuve de 10 jours à suivre le régime de Dieu plutôt que le régime de Babylone. Le succès de ce régime s'est manifesté dans l'apparence physique de Daniel. La deuxième épreuve est une épreuve visuelle. La première épreuve est une épreuve alimentaire. Daniel a manifesté sa foi et a réussi la première épreuve. Mais dans la deuxième, Daniel ne pouvait pas savoir à l'avance s'il allait paraître plus gras et plus beau que ceux qui suivaient le régime de Babylone. Il y a toujours des gens qui ont l'air magnifiques mais mangent des cochonneries et des réformateurs de santé consciencieux qui ressemblent à la mort ambulante. C'est l'exercice de la maîtrise de soi et de la foi de Daniel lors de la première épreuve qu'il a soutenu pendant la seconde, bien que l'issue de cette seconde période d'épreuve ait été obscurcie par les ténèbres. Les millérites qui ont mangé le petit livre le 11 août 1840 ont ensuite glorifié Dieu en proclamant le message du cri de minuit, alors que ce message déferlait sur le pays tel un raz-de-marée. La seconde épreuve est une épreuve visuelle, précédée par une épreuve alimentaire, à la fois littérale et spirituelle, puis suivie d'une pierre de touche prophétique. La seconde épreuve exige une démonstration visuelle de la foi qui avait été professée lors de la première épreuve.
Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. Hébreux 11, 1-2.
Le chapitre 2 de Daniel est un test visuel qui ne peut être réussi que si le régime alimentaire choisi lors du premier test est activement appliqué au processus de test.
Car la vision est encore pour un temps fixée, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Voici, son âme enflée n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, 3, 4.
L'issue du deuxième test est laissée dans l'ombre, afin de montrer si la foi professée lors du premier test était une foi véritable.
La lumière particulière donnée à Jean, qui fut exprimée par les sept tonnerres, était une description des événements qui devaient se produire dans le cadre des premiers et deuxièmes messages angéliques. Il ne convenait pas que le peuple connaisse ces choses, car sa foi devait nécessairement être mise à l'épreuve. Dans le plan de Dieu, les vérités les plus merveilleuses et les plus avancées seraient proclamées. Les premiers et deuxièmes messages angéliques devaient être proclamés. Mais aucune lumière supplémentaire ne devait être révélée avant que ces messages aient accompli leur œuvre spécifique. Le commentaire biblique adventiste du septième jour, volume 7, 971.
Il est divinement approprié que le chapitre 2 de Daniel soit basé sur une image, car il représente l'épreuve de l'image de la bête. Ceux qui étudient la prophétie et qui ont reconnu le 11 septembre 2001 comme un accomplissement de la prophétie ont symboliquement mangé le livre caché. Ils ont alors été ramenés aux anciens sentiers de l'adventisme, tels qu'ils apparaissent sur les tableaux pionniers de 1843 et de 1850. Les anciens sentiers ont identifié le mouvement du premier ange, qu'ils ont ensuite été amenés à comprendre comme représentant le mouvement du troisième ange. Toutes les précieuses révélations qu'ils ont été amenés à comprendre sont venues de la compréhension de la méthodologie prophétique qu'ils ont reçue. Cette méthodologie a été préfigurée par celle de William Miller, et elle a été confirmée lorsque le premier message de son histoire a reçu puissance le 11 août 1840.
En l'an 1840, un autre accomplissement remarquable de la prophétie suscita un intérêt général. Deux ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux ministres prêchant le second avènement, publia un exposé sur Apocalypse 9, prédisant la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée le 11 août 1840, lorsque l'on peut s'attendre à ce que la puissance ottomane à Constantinople soit brisée. Et cela, je crois, se vérifiera. Au moment précis indiqué, la Turquie, par l'entremise de ses ambassadeurs, accepta la protection des puissances alliées de l'Europe et se plaça ainsi sous le contrôle des nations chrétiennes. Cet événement accomplit exactement la prédiction. Lorsqu'on en eut connaissance, des multitudes furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation prophétique adoptés par Miller et ses collaborateurs, et un merveilleux élan fut donné au mouvement adventiste. Des hommes de savoir et de rang s'unirent à Miller, tant dans la prédication que dans la publication de ses vues. Et de 1840 à 1844, l'œuvre s'étendit rapidement. La tragédie des siècles, 334-335.
Lorsque des hommes ont accepté le 11 septembre 2001 comme un accomplissement de la prophétie, ils ont également été convaincus de la justesse des principes d'interprétation prophétique adoptés par Future for America. L'ange était descendu avec le livre caché et avait ordonné à ceux qui devaient manger de manger. La logique prophétique contenue dans le petit livre de l'histoire millerite et dans le livre caché de notre histoire actuelle est nécessaire pour passer sans encombre l'épreuve de la formation de l'image de la bête. Mais après avoir mangé, c'est-à-dire avoir assimilé la méthodologie prophétique, l'étudiant doit ensuite manifester une confirmation visuelle de ce qu'il avait précédemment mangé. Cet acte de foi doit se manifester par une épreuve dont l'issue est sombre. Les règles prophétiques de William Miller dans l'histoire du premier ange, combinées aux clés prophétiques qui furent établies dans l'histoire du troisième ange, permettent aux étudiants de la prophétie de reconnaître que chacun des trois anges d'Apocalypse 14 a apporté avec lui un message dans un petit livre qui devait être mangé. La méthodologie qu'ils ont choisie pour le manger permet à ces étudiants de voir ensuite que, lorsque l'ange d'Apocalypse 18 est descendu le 11 septembre 2001, il avait à la main un livre qui doit être mangé, bien que cela ne soit pas abordé directement au chapitre 18. L'ange tenait un livre caché dans sa main. Cette logique prophétique, c'est ce que Daniel représente lorsqu'il a choisi de rechainte la nourriture babylonienne. Cette logique prophétique est ce qui est nécessaire pour voir la formation de l'image de la bête, car bien que nous ayons été informés qu'il y a des mouvements et des événements qui seront provoqués pour former l'image de la bête, nous avons également été informés que le mouvement en faveur d'une législation dominicale se déroule dans les ténèbres. Nous devons avoir des lunettes de vision nocturne spirituelle pour pouvoir voir leurs mouvements dans l'obscurité. Car il s'agit de la formation de l'image, mais elle se forme dans les ténèbres. Elle ne sera reconnue que par les règles prophétiques que l'étudiant de la prophétie a acceptées lorsqu'il a reconnu le 11 septembre 2001 comme un accomplissement de l'arrivée du troisième malheur.
Dieu a révélé ce qui doit arriver dans les derniers jours, afin que son peuple soit préparé à tenir ferme face à la tempête d'opposition et que de colère. Ceux qui ont été avertis des événements qui sont devant eux ne doivent pas rester assis dans une attente sereine de l'orage qui vient.
se consolant à l'idée que le Seigneur abritera ses fidèles au jour de la détresse. Nous devons être comme des hommes qui attendent leur Seigneur, non dans une attente oisive, mais dans un travail zélé, avec une foi inébranlable. Ce n'est pas le moment de nous laisser absorber par des choses de moindre importance. Pendant que les hommes dorment, Satan arrange activement les choses de sorte que le peuple du Seigneur soit privé de miséricorde et de justice. Le mouvement dominical se ferait maintenant un chemin dans les ténèbres. Les dirigeants dissimulent la véritable question, et beaucoup de ceux qui se joignent au mouvement ne voient pas eux-mêmes où mène le courant sous-jacent. Ces professions de foi sont modérées et apparemment chrétiennes, mais lorsqu'il parlera, il révélera l'esprit du dragon. C'est notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour détourner le danger qui nous menace. Nous devrions nous efforcer de désarmer les préjugés en nous présentant sous un jour convenable devant le peuple. Nous devrions porter à leur attention la véritable question en cause, en opposant ainsi la protestation la plus efficace contre les mesures visant à restreindre la liberté de conscience. Nous devrions scruter les Écritures et être capables de rendre raison de notre foi. Le prophète dit « Les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » Témoignage, volume 5, 442.
Daniel représente les sages qui peuvent discerner le mouvement en faveur de la loi du dimanche, bien qu'il se déroule dans les ténèbres. Il le peut, car il a réussi l'épreuve alimentaire avant l'épreuve visuelle. L'épreuve visuelle de la formation de l'image de la bête se déroule dans les ténèbres.
Nous commencerons notre étude du chapitre 2 de Daniel en tant que message du deuxième ange dans le prochain article.
Et j'amènerai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai sur des sentiers qu'ils n'ont pas connus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et je rendrai droit ce qui est tortueux. Voilà ce que je ferai pour eux, et je ne les abandonnerai pas. Isaïe 42, 16.